On a un sujet passionnant encore à traiter. On aurait encore plein de choses à dire. Moi, j'aurais encore plein de choses à vous dire. Tellement de choses. Mais après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, osons la Bible. Osons la Bible. Envers et contre tout, osons la Bible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui nous dit, mais nous sommes trop intelligent pour être religieux. Ah ouais. Avec le niveau de connaissance aujourd'hui, plus besoin de la Bible. Il est tout à fait clair, nous dit-on, que si vous rencontrez quelqu'un qui prétend ne pas croire en l'évolution, cette personne est ignorante, stupide ou folle. Vous en avez un spécimen devant vous, vous pouvez l'observer. Ignorant, stupide ou fou. Je ne sais pas, vous pouvez choisir, vous pouvez tirer au sort aussi. Ignorant, je ne pense pas. Stupide, ça dépend des fois. Fou, ouais, j'en sais rien. Mais bon. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque du scientifiquement correct. Le scientifiquement correct, il faut être évolutionniste. Ah, la technique fatigue. Il faut être évolutionniste ou ne pas être. Si vous n'êtes pas évolutionniste, vous n'existez plus aujourd'hui. De plus en plus. Alors dans le milieu scientifique, c'est malheureusement très vrai. Très très vrai. Au niveau des études aussi. Au niveau de l'école, depuis tout petit, on va vous inculquer la théorie de l'évolution comme un fait. Et donc on en arrive à se demander, mais la Bible, est-ce vrai ? Ou est-ce faux ? Vrai ou faux ? Certains même ont été jusqu'à dire, mais encore un siècle, et il n'y aura plus de Bible sur la terre. Alors se pose la question que l'on doit traiter aujourd'hui ensemble. À partir de quel verset faut-il prendre la Bible au sérieux ? À partir de quel verset faut-il prendre la Bible au sérieux ? Parce que finalement, ce qui est peut-être important dans la Bible, c'est tout le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ qui vient dans ce monde mourir sur la croix pour nous, des pécheurs, pour nous donner une vie nouvelle. Et donc, gardons le Nouveau Testament et oublions le reste. Ou alors de se dire, mais voilà, ce qui est important, c'est à partir de l'histoire de la tour de Babel, ce qui s'est passé ensuite, donc après Genèse 11. Ou après le déluge, Genèse 8, ou quelque autre solution que vous choisiriez et qui conviendrait un peu mieux à votre point de vue. Alors le problème, c'est que on peut se dire, ok, gardons le Nouveau Testament. Mais j'aimerais que tu réfléchisses un petit peu à Jésus-Christ, celui que je vous ai dit, qui a coupé l'histoire en deux. D'après la Bible, il est venu dans ce monde mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Et en mourant sur la croix par sa résurrection, il a vaincu la mort. Ok ? On est tous d'accord là-dessus. Mais pourquoi Jésus devait venir dans ce monde ? Pourquoi devait-il venir dans ce monde ? Si vous oubliez les premiers chapitres de la Genèse, Jésus n'avait aucune raison de venir dans ce monde. C'est uniquement parce que l'on comprend ce qui est écrit dans la Genèse, et décrit dans la Genèse de façon précise, que l'on connaît pourquoi, et que l'on sait, et que l'on comprend pourquoi Jésus est venu dans le monde. Et c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui. Et donc, dès la Genèse, nous voyons comment Dieu nous parle, témoigne de l'histoire de la terre, de l'univers, de l'homme et de la femme, du jardin, des animaux, et comment l'homme est placé finalement sur la terre en tant que gérant de la planète. Et donc, le premier livre de la Bible va nous décrire l'origine de l'univers, va nous décrire l'origine de la terre, de la vie, l'origine de l'être humain, des gouvernements, du mariage, des cultures, des nations, du péché, de la mort. la base même de toutes nos cultures de ces derniers siècles, de notre société, est, qu'on le veuille ou non, directement basée sur le récit de la Genèse. Directement. Alors éliminer la Genèse, c'est rejeter nos bases. C'est faire fi de ce qui nous a construit. La Genèse est un livre tout particulier. Alors on n'a pas besoin de lire tout ce texte, mais la Genèse est un livre sur les origines. Il va présenter l'origine de l'univers, les origines de la race humaine, de la nation israélite aussi. Et comme il est dit dans 1 Timothée 3,16, il est dit que la Bible nous dit ce qui est vrai et ça corrige notre pensée. Toute parole est utile. Ce livre, donc la Genèse, nous dit infailliblement d'où nous venons et pourquoi les choses sont ainsi. Alors aujourd'hui, on est face, chez certains, à une réécriture du livre de la Genèse, des premiers chapitres de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'on se dit quand même, tous ces scientifiques ne peuvent pas avoir tort. Tous ces gens qui nous disent que c'est un fait, forcément, ils ont raison. Et donc on a tendance à se dire, ben oui, alors, où est-ce que je peux trouver telle et telle chose qui est avancée par la science dans les premières pages de la Genèse ? Et donc on va réinterpréter le récit de la Genèse en se disant, ben voilà, la science a raison, et si la Bible n'est pas en accord avec la science, c'est que le texte biblique est mal interprété. Et je vais devoir construire un autre raisonnement de compréhension du texte biblique. Est-ce la bonne façon de procéder ? La Genèse n'a pas été conçue comme un manuel de science. Ça, c'est clair. Heureusement d'ailleurs. Parce que savez-vous qu'un manuel de science a une durée de vie de 10, 15 ans, 20 ans peut-être maximum ? Après, c'est périmé. Il y a des nouvelles découvertes qui se passent par là et qui viennent remettre en cause ce que l'on croyait être vrai. Un manuel de science ne reste pas vrai à tout jamais. Je dis souvent que c'est notamment le cas. Moi, j'ai écrit une thèse en 1992. L'aboutissement de 3 ans de recherche, 3 ans et demi de recherche, dans un laboratoire. C'est dire si je suis vieux, hein, 1992, d'accord ? Bon. Donc, cette thèse, j'en ai encore, si pour les adeptes, j'en ai encore un carton à la maison, dans mon sous-sol, mais plus personne ne veut lire ça. Mes enfants ne sont certainement pas intéressés à lire ça. Hein, Benjamin ? Non, pourquoi ? C'est dépassé. De nouvelles connaissances sont venues. Et maintenant, on n'a plus besoin, on est passé à autre chose. Un livre de science, eh bien, avec le temps, ça se démode. Une nouvelle découverte, et on transforme ce que l'on croit être vrai. Donc la Genèse n'a pas été conçue comme un manuel de science. Mais maintenant, réfléchissons. Au cours des derniers siècles, depuis que la Bible existe, si les pères de l'Église ou les réformateurs avaient insisté pour faire concorder la Genèse avec la science de leur temps, le résultat aurait été désastreux. Désastreux. Et c'est ce que j'aimerais un petit peu partager avec vous maintenant. J'aimerais qu'on s'imagine, qu'on prenne la machine à remonter dans le temps et qu'on revienne un petit peu en arrière, au temps de Pasteur. Je vous ai parlé de la génération spontanée tout à l'heure. Au temps de Pasteur, on croyait à la génération spontanée. C'était un des grands débats du moment. La génération spontanée, c'est de dire que la vie peut émerger de la non-vie. Donc, des crocodiles dans le Nil, des mouches sur la viande, d'accord ? Des souris dans votre sous-sol, d'un seul coup, elles sont là. de la non-vie, elles ont émergé par hasard. On en rigole aujourd'hui, mais ça n'a pas été toujours le cas. Donc, on croyait cela. De ce temps-là, la Bible disait déjà, au commencement, Dieu créa. Donc, elle ne disait pas que la vie émergeait de la non-vie, mais que Dieu était le créateur de tout. Louis Pasteur a fait des travaux, et Pasteur, le croyant, sans faire intervenir en rien sa foi dans la démonstration, il va prouver de façon éclatante que la génération spontanée de microbes est une chimère. Il va dire, mais il démontre en plus, hein, il mène des expériences en laboratoire pour démontrer que la génération spontanée, ça ne peut pas exister, la vie ne vient que de la vie. Et il dit, tant pis pour ceux dont les idées philosophiques sont gênées par mes études. Ben oui, parce que si la vie ne peut venir que de la vie, et c'est encore accepté aujourd'hui, comment peut-on imaginer une ou plusieurs exceptions pour la théorie de l'évolution? Parce que c'est bien ça qui a dû se passer à un moment donné. La théorie de l'évolution nous dit qu'à un moment donné, la vie a émergé de la non-vie. Des molécules se seraient auto-assemblées pour produire d'un seul coup une cellule. On va complètement à l'envers de l'enseignement de Pasteur et de ce qu'il a montré et démontré. La génération spontanée est une chimère. Chaque fois qu'on y a cru, on a été l'objet d'une erreur. Si on revient un petit peu plus proche de nous, imagine-toi, jeune chrétien, au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, bon, il y avait un contexte bien particulier. Dans la communauté scientifique, une partie de la communauté scientifique croyait que l'univers était éternel. N'avait ni commencement ni fin. Que disait la Bible au début du XXe siècle? La Bible, déjà à cette époque, disait « Au commencement, Dieu créa ». Elle n'a pas changé. Le message de la Bible est resté le même. Alors, en tant que chrétien, croyant la Bible, lisant la Bible au début du XXe siècle, fin du XIXe, on aurait pu se poser un grave problème. Au commencement, Dieu créa. Comment je peux voir et concilier finalement que la science me dit que l'univers n'a ni commencement ni fin, et la Bible qui me dit que l'univers a un commencement, ce commencement c'est Dieu. Comment concilier ça? Et donc, en tant que chrétien, vous auriez pu être tenté de modifier ou d'interpréter les premiers versets de la Bible en essayant de trouver dans tel ou tel verset de quoi l'adapter pour que ça colle un petit peu mieux au fait que l'univers n'a ni commencement ni fin pour la science de l'époque. Vous auriez pu être tenté de faire ça. Certains ont pu être tentés de faire ça. Et puis, d'un seul coup, il y a Einstein, dont on reparle ces derniers jours. Einstein, avec sa théorie de la relativité, il dit « Mais si la théorie de la relativité est vraie, alors l'univers n'est pas éternel. » Ah ! Et si l'univers n'est pas éternel, c'est que l'univers a un commencement. Problème. Pour une grande partie de la communauté scientifique, ça pose de sérieux problèmes. Si l'univers a un commencement, il n'est donc plus éternel. Il n'est pas infini, donc il y a un début. Mais comment expliquer ce début? Et de revoir tout leur enseignement. Eddington, par la suite, a continué à travailler aussi sur la théorie de la relativité et disait la chose suivante, donc il a confirmé la théorie, il a montré que l'univers n'est pas statique, mais il disait en même temps, philosophiquement, la notion d'un commencement de l'ordre actuel de la nature m'est répugnante. J'aimerais trouver une véritable échappatoire. Lui, ça lui posait de gros problèmes de voir que l'univers avait un commencement, parce qu'il fallait ensuite pouvoir expliquer le commencement. Et donc, réfléchissez bien, donc, en tant que chrétien, vous auriez construit un modèle de compréhension des premiers chapitres de la Genèse en intégrant le fait que l'univers est éternel. Quelques années plus tard, La communauté scientifique vous dit « Ah ben maintenant, on sait que l'univers a un commencement. Ah ben mince, moi, j'avais ma compréhension de la Genèse sur un univers éternel. Donc je vais devoir modifier la façon dont je vois la Genèse. » Vous voyez le problème ? Si vous cherchez à caler la Genèse ou la Bible sur la science du moment, ça ne marchera jamais. Parce que la science, ce n'est pas la vérité. En matière de science, rien n'est définitif. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être différent demain. Quoi qu'importe ce que disent ou affirment certains aux scientifiques, eh bien, demain peut être différent d'aujourd'hui. Donc s'ils affirment aujourd'hui qu'ils croient dur comme fer, et ils le croient, que finalement nous avons un ancêtre commun avec les grands singes, ou que l'univers s'est créé tout seul, ou que la vie d'un seul coup est apparue sur la Terre toute seule, provenant d'une autre planète, ou que sais-je encore, ne cherchons pas à modifier la Bible pour coller à cette mode du moment, cette mode scientifique du moment, si contraignante soit-elle. Non. Attendons. Vous savez, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Nouveau Testament nous renseigne pas mal sur l'Ancien Testament. Et ni Jésus, ni Paul, ni Pierre, ni aucun auteur de la Bible ne se sont livrés à des réinterprétations du récit de la Genèse. Ils ont pris la Genèse telle que c'était écrit. Ils se sont en plus appuyés sur l'Ancien Testament pour débattre de leur temps avec leurs contemporains, sans aucun problème. Et un exemple pour moi aujourd'hui, c'est Paul. L'apôtre Paul, pourquoi l'apôtre Paul ? On peut penser, oh, il y a bien longtemps, il y a plusieurs siècles, ce qui était vrai, on ne peut plus l'utiliser aujourd'hui. Eh bien, réfléchissez un petit peu. Paul a été confronté, à un moment donné, au plus grand sage de son époque. Quand il était à Athènes, il s'est retrouvé face à des épicuriens et des stoïciens, des philosophes extrêmement pointus, et les Grecs, à l'époque, c'était le summum de la sagesse au niveau mondial. Il y avait des universités à Athènes, c'était une ville très instruite. Eh bien, Paul s'est trouvé d'un seul coup confronté à ces gens qui voulaient savoir un petit peu ce qu'ils croyaient. Et il était confronté justement à l'enseignement de ces personnes. Les épicuriens pensaient que le hasard gouvernait le monde. Les épicuriens pensaient à leur époque que la matière était éternelle, qu'il n'y avait pas de créateur, et que le monde était une combinaison due au hasard de particules atomiques. Étonnant. Ça ressemble étrangement à ce que certains nous disent par moments aujourd'hui. Pas de créateur, résultat d'une combinaison due au hasard de particules atomiques. Les stoïciens, eux, étaient rationalistes et disciplinés. Notamment Alexandre le Grand, le conquérant, là, il était stoïcien, discipliné. Ils étaient panthéistes, Dieu existe dans tout et dans chacun. Ils étaient fatalistes, ce qui arrive devait arriver, et ils ne voyaient ni bien ni mal dans ce monde. Voilà un petit peu pour la problématique, ou en tout cas le contexte dans lequel Paul se retrouve. Donc face à des gens qui ne croient pas du tout à un Dieu créateur, qui croient que ça s'est formé par hasard et que tout est venu au cours de longues périodes de temps. Ça s'est auto-assemblé. Eh bien, face à ces gens, c'est intéressant de voir ce que Paul leur dit. Paul va leur présenter, et c'est mis dans Acte 17, il va leur présenter un message absolument particulier. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Eh bien, Paul va leur dire déjà, quand on lit Acte 17, il va leur dire que Dieu est le créateur de l'univers. Il remet les choses à leur place. Dieu est le créateur. Ensuite, il leur dit que Dieu donne et maintient la vie de chacun. Dieu donne et maintient la vie de chacun. Ensuite, il va affirmer que Dieu est le maître de l'histoire. Ce n'est pas le hasard qui gouverne. Dieu est le maître de l'histoire. Une chose étonnante par la suite, il va dire que nous sommes tous descendants d'Adam. Et par là même, il souligne que Adam a bien existé dans l'histoire de l'humanité, que ça n'a aucun doute. Et donc que nous n'avons aucun doute, encore aujourd'hui, de remettre en cause l'existence historique d'Adam et donc forcément d'Ève. Il va enfin terminer en disant que Dieu est le juge de ce monde. Et qu'un jour, il va réclamer non seulement ses droits d'auteur, mais aussi la façon dont on a géré sa planète et la façon dont on a vécu notre vie, la vie qu'il a donnée et la vie qu'il a maintenue pour chacun d'entre nous. Et donc, face à ces érudits, ces savants, ces athées, Paul commence à présenter Dieu en tant que créateur. Et c'est intéressant de voir pourquoi, si la propre parole de Dieu commence par la doctrine de la création, c'est que le sujet doit être d'une importance fondamentale pour tout ce qui a suivi. C'est vraiment intéressant tout cela. Alors pourquoi ne pas concilier finalement les deux ? Pourquoi ne pas se dire, eh bien oui, je peux faire une sorte d'amalgame, de compromis entre la théorie de l'évolution et la Bible ? Je vais vous dire ce que je vois, moi, comme problème. Et donc, en mettant côte à côte la théorie de l'évolution et les affirmations de la Bible, la théorie de l'évolution nous affirme, à un moment donné, que l'univers apparaît à partir de rien, que la vie se développe à partir de molécules via des processus naturels, et qu'il y a une évolution de toute forme vivante à partir d'un ancêtre commun sur des longues périodes de temps. La Bible nous dit qu'il y a un commencement, que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, que Dieu a créé la vie et que Dieu créa les formes de vie selon leur type. Donc c'est une vision du monde qui est complètement différente, puisque dans un cas, c'est un projet de Dieu et dans l'autre, c'est un processus aléatoire de la poussière qui évolue au cours du temps et qui va retourner à la poussière ensuite. Donc un projet complètement différent, mais aussi une vision totalement opposée de la mort. Pour la théorie de l'évolution, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? La théorie de l'évolution nous dit que dès le début, il faut une sélection des plus aptes, c'est-à-dire que la mort est essentielle pour la théorie de l'évolution. Dès le début, que le plus apte, le plus fort doit remplacer le plus faible, et qu'il n'y a pas de destin, pas de raison d'être. Pour la Bible, c'est tout autre. Pour la Bible, la mort est une intruse. À l'origine, Dieu n'avait pas prévu ce plan pour l'homme. Dieu n'avait pas ce plan de mort pour l'homme. D'accord ? La mort est une intruse. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus-Christ a dû venir dans ce monde. Pour la Bible, la cruauté et donc les maladies, tout le mal, l'injustice qui existe dans ce monde est le résultat de la désobéissance de l'homme et le fait que l'homme se détourne de Dieu et non pas, finalement, venant directement et dicté par Dieu. C'est la conséquence que l'homme n'accepte pas Dieu en tant que créateur, qui a des conséquences ensuite tragiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan d'amour pour chaque être humain. Et donc, vous voyez la différence, la grande différence, je pense, une des différences clés, c'est toute cette question de la mort et des conséquences que ça a entraînées et la façon de voir ça. Sans l'entrée de la mort dans ce monde, sans la mort comme intruse, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir, je vous l'ai dit. Alors devons-nous maintenant passer la Bible au filtre de la science aujourd'hui ? Vous savez, ce serait assez catastrophique, parce que finalement, pour la science d'aujourd'hui, les miracles qui sont décrits dans le Nouveau Testament sont aussi invraisemblables que ceux des premiers chapitres de la Genèse. Donc si tu veux que la Bible colle à la science d'aujourd'hui, tu vas devoir commencer à découper pas mal de pages dans ta Bible. Changer de l'eau en vin. Tu crois que scientifiquement, c'est prouvé ? Ressusciter un mort. Guérir des maladies, comme ça, immédiatement. Guérir des lépreux, les paralytiques. Est-ce que ça tient la route pour la science ? Alors, j'ai envie de te le dire très franchement, si tu enlèves les premiers chapitres de la Genèse uniquement parce qu'ils ne collent pas avec la science d'aujourd'hui, mon cher, si tu es conséquent avec toi-même, tu dois aussi virer tous ces chapitres du Nouveau Testament. Et là, ça pose problème. Mais alors, tu t'arrêtes où ? Mais c'est la dérive complète. Mais que nous reste-t-il de la Bible ? Et c'est bien là la question. Donc le fond n'est pas, vous voyez, le fond du problème n'est pas un fond purement ou un débat purement scientifique. Non, il va bien au-delà. C'est clairement la question du Dieu créateur contre une vision du monde purement matérialiste, ultra-matérialiste, et où l'on veut rejeter l'idée d'un Dieu, complètement enlever l'idée d'un Dieu. Alors j'aimerais faire quand même une petite mise au point, c'est que, vous savez, on nous reproche aujourd'hui, en tant que à ceux qui croient à la création, qu'on appelle de façon péjorative, enfin certains utilisent ça comme terme péjoratif, les créationnistes. Et dès qu'on dit ça, ou dans les milieux scientifiques, quoi, t'es de créationniste ? C'est pire qu'un lépreux, hein ? Ah, on n'ose plus t'approcher. Ah, c'est terrible, hein ? Non, mais c'est vrai, hein ? C'est... Ouh. Mais contrairement à ce que certains affirment, le créationnisme, croire que Dieu a créé le monde, croire la Bible, ce n'est pas croire que le monde a été créé et qu'il n'y a eu aucune variation dans ce monde depuis la création. Puisque je vous ai montré ce matin des variations qui existent, qu'on peut documenter, les races de chiens, chez le chat aussi, enfin plein, parmi tous les animaux, parmi tous les végétaux, il y a des exemples de modification. Donc c'est là où c'est important de faire la part des choses. Et puis, vous savez, quand même, de tout temps, hop, c'est pas passé, de tout temps, de grands scientifiques étaient créationnistes. Si vous regardez dans l'histoire des sciences, de grands scientifiques étaient créationnistes. Alors, ils n'ont pas toujours été bien reconnus. Il y a quelques années, on a donné le prix Nobel à deux personnes pour l'invention de l'IRM, l'image à résonance magnétique. Et puis, en fait, en regardant les choses, certains journalistes se sont aperçus que l'IRM avait été inventé quelques années auparavant par un scientifique qui n'a même pas été cité lors du prix Nobel. Vous savez pourquoi ? Parce que ce scientifique croyait en Dieu et le disait publiquement. Donc en tant que chrétien, on l'a tout simplement évincé. Et c'est des choses qui arrivent de façon courante dans la communauté scientifique. Mais les créationnistes, aussi péjoratifs que ça semble être ce terme, ils utilisent la méthode scientifique pour explorer le monde, pour comprendre le monde, et ils sont encore plus motivés, je dirais, que d'autres, parce qu'ils sont motivés par le fait qu'ils connaissent ce Dieu créateur et qu'ils aiment comprendre ce que Dieu a fait. Donc, la Bible n'est pas fixiste, c'est-à-dire elle ne défend nullement le fait que les espèces ne varient pas. Alors le problème, c'est qu'on trouve dans la Genèse ce terme « espèce » où il est dit, en tout cas dans la version française, où il est dit que Dieu a créé chacun selon son espèce. Si vous regardez dans d'autres langues, c'est plus selon son type de base. Parce que ce que nous avons en français, c'est la fâcheuse tendance de faire des amalgames. Tout à l'heure, je vous ai cité, enfin ce matin ou cet après-midi, le terme « évolution » qu'on utilise pour différentes choses. Eh bien, le terme « espèce », il a une valeur bien précise au niveau biologique, qui a surtout été développée par Carl von Linné, et puis ensuite Mère au cours du XXe siècle. Et donc, ce qu'on appelle espèce aujourd'hui est différent de ce que la Bible appelle espèce dans Genèse 1. Mais bon, certains utilisent ça pour, certains détracteurs de la Bible utilisent ça pour mettre à mal la Bible. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes motivés, nous, scientifiques chrétiens, à chercher justement quel était ce terme dans Genèse 1 qui correspond à ce type de base, à quels animaux ça pouvait correspondre. Et puis surtout, c'est marrant parce que si on va voir un petit peu à quels animaux ça peut correspondre, ou ça pouvait correspondre, on peut commencer à faire des chiffrages assez intéressants sur le nombre d'animaux dans l'arche de Noé. Oh, tu crois à l'arche de Noé? Ben ouais. L'arche de Noé, pas comme il est dessiné, vous savez, dans les livres des fois qu'on voit à l'école du dimanche, une toute petite arche avec deux éléphants, deux girafes qui sortent leur cou de la fenêtre et puis qui sont bien à l'étroit. Non, l'arche de Noé, c'était immense. Immense. Vous avez une arche de Noé qui a été reconstruite à l'échelle, à la vraie échelle, échelle réelle, à côté de Rotterdam. Et donc, vous pouvez aller le visiter. C'est assez ahurissant, la place qu'il y avait. Et donc, il y avait de la place vraiment pour tous les animaux. Et il y a même des chrétiens qui ont écrit des bouquins pour montrer et pour décrire un petit peu comment ça a pu fonctionner de ce temps-là. Donc, des choses très, très intéressantes. Donc, ne rejetons pas la Bible simplement parce qu'elle ne colle pas avec la science aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si les pères de l'Église ou les réformateurs avaient insisté pour faire concorder la Genèse avec la science de leur temps, le résultat aurait été désastreux. Alors ma question, quelle Bible souhaites-tu laisser à tes enfants? Quelle Bible souhaites-tu communiquer à tes contemporains? Est-ce une Bible diminuée, amputée? Ou est-ce que tu es prêt à accepter la parole de Dieu, telle qu'elle est donnée? Ah, nous ne devrions pas faire confiance à une opinion en vogue pour définir la vérité. Et combien c'est vrai? Ni la science, ni les Écritures ne sont nécessairement vraies parce qu'elles sont acceptées par la majorité. Pour appréhender la réalité, d'autres critères doivent aussi être pris en compte. Ce n'est pas parce que le plus grand nombre va crier « il n'y a pas de problème » que vraiment il n'y a pas de problème. Repensez à l'époque de Noé. Pff, rigolo, tu construis une arche? Aucune chance qu'il pleuve. Bon, et puis s'il pleut, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous sommes exactement dans la même situation. Ce n'est pas le plus grand nombre qui doit nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. La vérité ne peut être définie que par la parole de Dieu. C'est lui seul qui détient la vérité. Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie, nous a dit Jésus. Alors tout à l'heure, je vous ai cité une personne qui disait « Encore un siècle et il n'y aura plus de Bible sur la terre ». Eh bien, cette personne, c'est Voltaire. Comme il s'est planté, notre cher Voltaire. Comme il s'est complètement planté, le pauvre. Et justement, ça nous interpelle parce que nous n'avons pas à répéter les erreurs du passé. Certains ont cherché à détruire la Bible, mais ils ne sont plus de ce monde. Et leurs écrits aujourd'hui n'atteignent même pas la cote de popularité de la Bible. Certains ont affirmé « Dieu est mort », mais ils ne sont plus non plus de ce monde. Mais Dieu est bien vivant. Certains ont essayé d'interpréter le texte biblique selon les connaissances scientifiques de l'époque. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La Bible a toujours affirmé que l'univers a un commencement, que les êtres vivants et l'homme ont été créés par le Créateur. Donc nous n'avons pas besoin de chercher à absolument, avec un chausse-pied, faire entrer la Bible dans la chaussure de la science d'aujourd'hui. Alors, pour conclure, j'aimerais partager avec vous 5 conseils, 5 versets que la Bible nous donne, que nous devrions et que je vous invite à méditer et à appliquer. Le premier, on l'a vu ce matin, c'est la Bible encourage à faire de la science. La Bible n'empêche pas de faire la science. Au contraire, que dit la Bible ? L'Épître aux Romains nous dit, mais regardez autour de vous, regardez le ciel et la terre. Depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée, à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa puissance, sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Donc on nous dit, mais la Bible nous encourage à regarder, faire des observations, faire des découvertes scientifiques, à étudier ce qui nous entoure, de la nature, du ciel, l'immensité au niveau de l'astronomie, mais l'infiniment grand, l'infiniment petit. Pourquoi ? Parce que tout cela va nous faire réfléchir. Nous allons nous trouver devant de telles merveilles qu'on va être « Oh, comme c'est merveilleux !» On va rester baba devant de telles choses. On va trouver ça trop bien fait. On va être ébahi. Et oui, parce que la science va nous permettre de comprendre l'univers que Dieu a créé. Et la foi va nous permettre de connaître Dieu qui a créé l'univers. Combien c'est formidable, parce que ça va être complètement complémentaire. Alors une autre chose que j'aimerais vous laisser, Pierre disait « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et là aussi, face à ces questions des origines, la discussion peut très vite tourner au vinaigre. C'est argument contre argument. Ah, je te dis, t'as faux. Mais non, c'est toi qui as faux. C'est n'importe quoi, etc. Nous sommes appelés à nous défendre, mais avec douceur et respect, devant quiconque nous donne raison. Donc des fois, peut-être, on peut perdre ce qu'on appelle perdre la discussion, mais ce n'est pas grave. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour nous défendre avec douceur et respect. Il s'agit peut-être une fois simplement de partager une merveille de la création de Dieu. Ça peut être, tiens, tu sais comment le train à grande vitesse japonais a été construit, modifié au cours du temps ? Eh bien, tout simplement, WWND. Eh oui ! Le Martin Pêcheur. Tiens, tu sais qu'il y a certains buildings aujourd'hui, eh bien, on calque leur construction complètement sur l'observation des termitières. Et on a un système de climatisation intégré qui est formidable et qui maintient la température de façon stable et constante. On peut pointer justement nos contemporains sur ces choses-là. C'est une façon de leur amener à s'intéresser à la nature. Et la nature nous parle du Créateur. Donc Dieu va faire le reste. Et puis un jour ou l'autre, il va s'intéresser peut-être un peu plus et on va pouvoir lui partager l'Évangile. Donc, comment nous comporter, que ce soit à l'école, à l'université, dans nos familles, prêts à dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on lit dans la Bible, avec douceur et respect, sachant apporter les bons arguments, des fois le meilleur argument, c'est de se taire et d'attendre, laisser passer l'orage, puis des fois, bien, il faut parler. Mais n'ayons pas honte. N'ayons pas honte de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance de Dieu. La nature nous montre la puissance du Créateur. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous avons des puissances complémentaires là, devant nous, pour nous, pour le salut de quiconque croit. Une autre chose que le Seigneur nous laisse, nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Oh oui, combien il y a des loups autour de nous. Combien il y a des gens qui ne souhaitent simplement que nous faire tomber. Nous traiter dans le et nous traîner dans le ridicule. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Il n'y a même pas besoin des fois de développer de grands discours, il suffit d'être simple. Un signe des fois juste vers la nature peut suffire à faire taire le plus grand des détracteurs. Soyons simples. Et puis, soyons conscients que finalement, on ne va pas avoir de traitement privilégié dans notre monde. Si tu t'attends à un traitement de faveur, tu n'es pas au bon endroit. Le Seigneur n'a jamais promis un traitement de faveur à celui ou à ceux qui veulent le suivre. D'accord ? Il a dit, au contraire, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le message du Seigneur est clair. Pas facile, mais il est clair. Ce n'est pas un traitement de faveur. Nous, on aimerait bien être tranquille chez nous et profiter de la vie. Est-ce que l'on suit le Seigneur en faisant ça? Si l'on veut vraiment être un disciple de Jésus-Christ, on doit être prêt à tout. Prêt à tout, mais ça vaut la peine. Parce que ce que lui a à nous offrir a bien plus de valeur que ce que nous pouvons perdre en cherchant à le conserver. Mais c'est dur. C'est dur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Des fois, j'ai l'impression qu'on aimerait être mieux traité que Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? Mieux traité que le personnage le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Eh oui, c'est ça, si on cherche un traitement de faveur. Mais non. Sachons être ou décidons d'être des disciples de Jésus qui allons de l'avant avec lui. Qu'importe l'adversité, qu'importe ce que les autres peuvent dire autour de nous, on avance. Pas parce qu'on compte sur nous-mêmes, pas parce qu'on compte sur les autres, non, parce qu'on compte sur son secours. Et parce qu'on sait que ce Dieu Tout-Puissant, qui a tout créé, qui a donné ses marques, sa marque de fabrique à ce monde, qui nous laisse des traces jour après jour de sa toute-puissance, de sa divinité, eh bien, il ne va pas nous laisser tomber comme ça. Il ne peut pas nous laisser tomber. S'il a un plan pour nous, il ne peut pas nous laisser tomber. Alors, vous savez, de tout temps, de grands scientifiques croyaient la Bible. Et encore aujourd'hui, des scientifiques croient la Bible, même si on cherche à les traîner dans la boue, si on cherche à les mettre de côté. Mais des gens comme Boyle, l'un des grands de la chimie, Blaise Pascal pour le calcul, les mathématiques, Linné pour la biologie, Isaac Newton. Savez-vous qu'Isaac Newton a écrit des commentaires sur Daniel et sur le livre de l'Apocalypse ? Intéressant. Un homme de sa trempe piochait dans la Bible et réfléchissait aussi sur la Bible, non seulement sur la science. On peut s'en inspirer. Et encore aujourd'hui, je vous ai dit, des scientifiques croient la Bible et continuent à essayer de vivre en accord avec la Bible et à ne pas chercher de contre-promis. Alors, si j'ai quelque chose, une petite phrase, au final, que j'aimerais vous laisser, c'est clairement celle-ci. Pour moi, et c'est d'ailleurs Il y a quelques années, une journaliste qui passait sur un stand lors d'une conférence évangélique, c'était France 5, je crois, m'a demandé quelque chose sur la Bible, que je lui dise quelque chose. Et je lui dis, mais savez-vous, madame, pour moi, la Bible, c'est un livre ni démodé, ni dépassé, mais en avance sur son temps. Et je pense vraiment, plus je vois les années défiler, plus j'ai l'impression de le vivre et de voir que c'est vrai. La Bible, c'est un livre ni démodé. Je vous ai parlé un petit peu de quelques sparadraps que l'on mettait sur la théorie de l'évolution aujourd'hui pour essayer de la faire coller avec les observations du moment. La Bible n'a pas varié dans son message depuis sa composition. Elle est restée vraie depuis le départ. Son message est encore vrai pour expliquer l'origine du monde, ce que nous sommes et où nous allons. Donc pour répondre de façon complète et sérieuse aux grandes questions essentielles que tout humain se pose, ne peut pas ne pas se poser, on a vu ce matin. Ni dépassé, la Bible n'est pas dépassée encore aujourd'hui. Si vous prenez le temps de voir son message, et si vous prenez le temps de voir certaines sornettes que l'on raconte à gauche à droite, eh bien on voit très bien que la Bible n'est pas dépassée. Et puis, l'étude de quelques passages du passé, je vous ai montré l'épisode au début du XXe siècle où la communauté scientifique croyait que l'univers était éternel, ni commencement ni fin, eh bien on s'aperçoit qu'à cette époque, la Bible était en avance sur son temps. Eh bien aujourd'hui encore, je vous dis, la Bible est en avance sur son temps. Et nous savons qu'un jour, tout œil devra reconnaître que Dieu est le Créateur. Tout le monde devra reconnaître qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant. Pour certains, ce sera un moment merveilleux. Et pour d'autres, ce sera un moment de jugement, parce qu'ils réaliseront alors qu'ils ont délaissé ce Dieu Tout-Puissant, ce Créateur merveilleux. La Bible, un livre ni démodé, ni dépassé, mais en avance sur son temps. Alors ensemble aujourd'hui, dans ce monde qui est des fois si difficile à naviguer, à vivre, à survivre, j'allais dire, eh bien osons la Bible, osez la Bible, ose la Bible à tout niveau. Avec sagesse, avec humilité, mais parce que c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Osons la Bible. Merci.
Merci André. Osons la Bible. Exact.
Je ne sais pas s'il y a juste alors, une ou deux minutes pour deux ou trois questions.
Oui, exactement. En fait, on a un petit peu de temps. Alors, pendant que les cerveaux sont encore chauds,
Tu
as noté quelques questions là ?
Il y a tout plein de SMS.
Mais elles sont sérieuses ?
Ah oui, oui, oui. D'accord. Non, mais c'est sérieux. Il y en a tellement. Alors, il y en a qui se recoupent. Il y en a certaines que j'ai déjà répondu. Il y en a d'autres que je n'ai pas répondu. Alors, on me dit, mais pourquoi tu ne réponds pas à ma question ? Mais bien sûr.
Alors, c'est pas pareil. Il y a sûrement pas mal de questions qui ont été répondues pendant les quatre sessions, mais ils étaient peut-être absents.
Oui, peut-être bien, oui.
Ok, alors donc, on va prendre un petit peu de temps maintenant, justement, avant de faire une longue pause, bonne pause, avant le repas du soir. Mais donc je t'invite à répondre maximum de questions en 15 minutes, si t'arrives.
Ok.
20 minutes.
Ah oui, pas de problème.
Alors soyez attentifs, hein, c'est vos questions. Tant de questions
réponses. Alors, il y a eu des questions au niveau des méthodes de datation. Méthode de datation, comment on fait pour dater, est-ce qu'on peut dater avec carbone 14, etc. Il me faudrait 2 heures pour répondre à ça de façon correcte, mais bon, pour faire vite, notamment le carbone 14. Le carbone 14 ne peut être utilisé que pour dater des choses qui sont biologiques. Donc on ne peut pas dater des cailloux avec du carbone 14. C'est pas possible. C'est tout ce qui contient du carbone. D'accord ? Donc vous allez me dire, et le diamant ? Ah oui, le diamant contient du carbone. Donc on pourrait dater du carbone, je vais y revenir. Donc le carbone 14, c'est une méthode qui a été développée au cours du XXe siècle, qui n'est pas parfaite, mais qui se base sur toutes les grandes méthodes de datation, en fait, se base sur la désintégration radioactive. Donc on ne va pas entrer dans les détails de ça, mais pour ceux qui veulent, vous venez me voir tout à l'heure, on peut en reparler. Ensuite, avec le carbone 14, on peut dater jusqu'à environ entre 50 et 100 000 ans. 100 000 ans, ça devient déjà très difficile, mais jusqu'à 50 000 ans, en général, on se dit que ce n'est pas trop faux. Et encore, c'est des âges maximum. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a un escargot qui avait été daté dans les années 65-70. Donc, on avait essayé de dater l'escargot et sa coquille. Sa coquille avait été datée de moins 20 000 ans, alors que l'escargot avait été daté, ben, il venait de mourir. Hein. Donc là, il y a des fois des dysfonctionnements au niveau des méthodes de datation. Pour le diamant, il y a quelques années, certains ont fait dater du diamant, donc le diamant c'est du carbone à l'état pur, d'accord ? Du diamant qui provenait de couches qui étaient données par certains comme étant vieilles de plusieurs centaines de millions d'années. Donc, si on utilise le carbone 14 pour ça, pour ce diamant qui est du carbone à l'état pur, si ça a plusieurs centaines de millions d'années, quel est le résultat ? On ne devrait plus rien mesurer. Or, ce diamant contenait encore du carbone 14. Et ça pose pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes pour la communauté scientifique, parce que le diamant est si compact qu'il ne peut pas y avoir de contamination, etc. Donc ça pose un problème. Si ce diamant a plusieurs centaines de millions d'années, il ne peut plus avoir de carbone 14. S'il y a encore du carbone 14 dedans, c'est qu'il n'a pas plusieurs centaines de millions d'années. Donc on a des choses assez ahurissantes. Je vous ai montré tout à l'heure des âges pour des restes non fossilisés de dinosaures, où on se dit, mais tiens, au maximum, ils ont quelques dizaines, moins de 30 000 ans. Comment c'est possible, ça ? Et ça, c'est au carbone 14. Ben, si on suit la Bible, si les dinosaures ont été créés selon la Bible parmi les grands animaux terrestres, eh bien on a la réponse. Ah ouais, mais alors comment les hommes et les dinosaures ont pu vivre ensemble là, parce que le T-Rex, quand même, vous avez bien lu les premiers chapitres de la Genèse ? Est-ce que, au moment de la création, les animaux étaient carnivores ? Non. Ils étaient tous herbivores. C'est qu'après que le régime alimentaire a changé. Étonnant. Alors, ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu des articles sur le fait que la grande majorité des dinosaures étaient herbivores et qu'il n'y en avait que quelques-uns, quelques espèces, qui étaient vraiment ces terribles carnassiers. Mais alors, d'où nous viennent tous ces fossiles ? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais quand je regarde, moi, ce que la Bible me dit, il y a un événement majeur dans l'histoire de notre globe qui existe et qui a causé des perturbations absolument massives, qui est le déluge. Et quand vous regardez certains cimetières de dinosaures ou certains cimetières d'animaux, il est rapporté, décrit, que les animaux semblaient être dans un état de panique, de fuite, où ils cherchaient à fuir quand ils ont été recouverts par les couches sédimentaires. Notamment, comme ça peut être dans le cas d'un tsunami ou d'un déluge universel, comme on l'a vu. Donc là, clairement, il y a des choses assez intéressantes à voir. Alors, on m'interroge aussi sur la vie sur d'autres planètes. Vous savez pourquoi la question se pose aujourd'hui ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'arrive pas à expliquer la vie sur la Terre, dont on se dit qu'il doit y avoir la vie ailleurs. Et donc, elle est venue d'ailleurs sur la Terre. Quand je lis la Bible, je n'ai aucune indication de vie sur une autre planète. Donc, j'aurais tendance, moi personnellement, à répondre non, mais c'est ma vue personnelle. Sinon, j'en sais rien, mais je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas un vrai problème. Mais j'aurais plutôt tendance à dire non. Je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses là au cours des dernières minutes sur est-ce que ça compte vraiment la façon dont on voit les premiers chapitres de la Genèse ? Est-ce que Adam et Ève ont vraiment existé ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Moi, je pense que ce n'est pas un mythe. Moi, je pense qu'on peut prendre la Genèse au sérieux et que le reste de la Bible aussi est à prendre au sérieux. Et que si je ne prends pas la Genèse au sérieux, j'aurais tendance à me demander à partir de quel verset je vais pouvoir prendre la Bible au sérieux. Mais alors si, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces squelettes ne sont pas des ancêtres communs entre le singe et l'homme, que sont-ils, ces squelettes ou ces fossiles retrouvés ? Lucie, par exemple. Lucie, aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que c'était un singe. Et quand vous regardez les squelettes retrouvés ou les parties de squelettes, en général, vous allez assez bien pouvoir les classer soit dans les grands singes ou d'autres singes, soit parmi des humains. Comme Néandertal, on le classe maintenant complètement parmi les humains. Donc ce n'est pas des créatures ou des restes de formes intermédiaires, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'en parler, que ce soit à l'école, même autour de nous. La pensée de Dieu, ça ça passe plus. Donc comment faire ? Bien, c'est sûr qu'on est tenu à l'école, on est tenu d'apprendre certaines choses. Il y a un programme à suivre, on est tenu d'apprendre le programme. Ce n'est pas pour autant qu'on doit croire tout ce qui nous est présenté dans le cadre du programme. Moi, ce que j'ai dû m'ingurgiter sur justement la théorie de l'évolution et tout ça dans les études secondaires, je l'ai appris. Et puis après, lors des examens, je me rappelle notamment d'un examen où il y avait pas mal de questions là-dessus. J'ai ressorti ce que je savais et puis après, j'ai rajouté ce que je pensais. Je ne sais pas comment ça ferait aujourd'hui. Je ne sais pas qui a corrigé ma copie. Je ne pense pas que ce soit le prof. Enfin, parce que là, c'était, vous savez, les profs d'université. Enfin, c'était à l'école polytechnique à Zurich. Et là, les profs, c'est souvent des assistants ou des professeurs associés qui corrigent les copies et les profs donnent juste les cours. Et donc, à mon grand étonnement, je n'ai pas été saqué. Par contre, je me rappelle au lycée d'une copie de philo, je dois l'avoir encore à la maison, où là j'avais parlé de la Bible, et là le prof m'avait pas mal allumé. Mais bon, ça m'avait sérieusement refroidi d'ailleurs. Mais bon. Donc vous voyez, il y a des fois, c'est pour ça que je vous dis, il faut être sage. Simple comme des colombes, mais sage. Et c'est là où on a besoin de demander au Seigneur, mais de nous aider à parler ou à ne pas parler. À apprendre tel quel sans réagir, ou des fois de temps en temps à réagir, à dire, mais attendez, quels sont les critères qui régissent dans un cours de biologie ou autre, de science ? Clairement, il y a la méthode scientifique. Donc vous pouvez demander à votre professeur, mais c'est quoi les bases de la méthode scientifique ? Vous le faites normalement, vous devez passer une bonne partie, je crois, en cinquième, à travailler là-dessus. Mais après, vous pouvez, comme c'est fait, vous pouvez essayer de voir pour l'appliquer ailleurs et poser des questions non tendancieuses sur la méthode scientifique. Est-ce que ça a été observé ? Est-ce que c'est répétable ? Mais si ce n'est pas répétable, est-ce que c'est vraiment scientifique ? Etc. etc. Donc, il y a tout plein de choses comme ça. La météorite pour l'éradication des dinosaures, moi, je ne pense pas que les dinosaures aient été éradiqués par une météorite. Les dinosaures n'ont pas non plus été, s'ils étaient vivants au moment de Noé, Les dinosaures n'ont pas non plus été éradiqués à ce moment-là par le déluge. Pourquoi ? Dieu a demandé à Noé de prendre un couple de chaque espèce. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça ne marche pas, des dinosaures, il n'y en a plus. Ben écoutez, il n'y a même plus de témoignages. Plus de témoignages, je suis assez étonné. Je vous ai cité des restes de dinosaures qui semblent être relativement proches. Quand vous allez regarder un peu partout dans le monde, vous avez des sculptures des fois, des sculptures dans la pierre de peuples anciens. Quand vous comparez ça, ou des dessins, quand vous comparez ça avec des dessins, représentations de dinosaures, notamment dans l'encyclopédie, une grande encyclopédie des dinosaures, vous allez trouver des ressemblances absolument frappantes, quasi identiques, sur des dragons qui auraient existé et qu'on nous présente des fois comme des légendes, sur des grands animaux que certains auraient rencontrés au fin fond de la brousse australienne et qu'ils ont représenté par, comme ça en dessin, et vous comparez, c'est ahurissant. Est-ce que c'est basé que sur l'imaginatif ? Mais alors comment l'imaginatif de certaines personnes peut correspondre à certains restes de fossiles de dinosaures que l'on retrouve aujourd'hui ? Alors qu'ils n'avaient aucune connaissance de dinosaures, allez, on nous dit. Est-ce qu'ils auraient côtoyé des dinosaures ? Donc tout cela, il y a pas mal de choses. Alors, vous savez, on ne peut pas forcer les gens à étudier la Bible, à croire la Bible encore moins, à lire la Bible non plus. Mais peut-être, comme ce matin, commençons simplement par, les points, par leur pointer le message du Créateur dans sa nature et lui montrer les merveilles que Dieu a faites. Alors, comment Dieu voit les scientifiques ? J'en sais rien, je ne suis pas à la place de Dieu. Mais Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe les yeux. Donc j'aurais tendance à appliquer ce critère aussi sur ceux qui font de la science. Quel est vraiment le cœur, comment se comporte le cœur de certains scientifiques ? Certains scientifiques vont peut-être, mais d'autres aussi hein, dans ce monde, vont être clairement anti-Dieu et vont être très hargneux contre Dieu. Un cœur vraiment contre Dieu. Ils sont clairement ennemis de Dieu. D'autres vont être indifférents et d'autres vont être favorables. Donc, comment Dieu voit les scientifiques, je ne sais pas si ça répond, mais il parle que beaucoup de chrétiens ont des avis différents sur la Genèse. Je pense qu'on l'a traité tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas salutaire, j'espère ne pas dire une hérésie, mais mon salut ne va pas dépendre de la façon dont je vois la Genèse, mais, j'ajoute un mais, c'est que la façon dont je vois la Genèse impacte quand même complètement et directement dans la façon dont je vois la Bible et tout le message de la Bible. Donc, si je viens de dire une chose là tout à l'heure, que ça ne semblait pas impacter le salut ou que ce n'était pas salutaire, il y a quand même une chose, et tout à l'heure je vous ai fait réfléchir, pourquoi Jésus-Christ est entré dans ce monde ? C'est bien parce que, dans le début de la Genèse, il nous est dit qu'à un moment donné, il y a l'entrée du péché, la désobéissance de l'homme et l'entrée du péché. Donc, j'ai besoin de remettre bien les choses à leur place. On me parle ensuite de déluge, de dérive des continents, etc., etc. Le climat après le déluge, le climat modifié. Ah oui, il y a tout plein de choses. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la dérive des continents, c'était tabou dans la communauté scientifique. les scientifiques ne l'acceptaient pas. Et le pauvre scientifique qui défendait la dérive des continents, il était mis à l'écart. Et c'est que d'un seul coup, on s'est aperçu, ah oui, tiens, il semble qu'il y ait des plaques qui bougent. Et les volcans nous montrent bien, enfin, sont une conséquence directe de ces plaques qui bougent. Et d'autres. Alors, quelle est l'origine de ces plaques qui bougent? Est-ce que, à partir du moment du déluge, ça s'est mis, il y a de tellement fortes perturbations qu'il y a un phénomène qui s'est mis en route? Je n'ai pas la réponse de façon sûre, là. Je ne sais pas. Mais on voit aujourd'hui que ça bouge. Que ça bouge. Est-ce que ça a toujours bougé à cette vitesse? On n'en est pas sûr. Peut-être que juste après le déluge, ça a pu bouger plus vite si ça s'est mis en place à ce moment-là. L'effet du déluge sur notre Terre a dû être massif. Moi, ce qui me marque toujours, c'est quand je lis le psaume 104, je vous le citais tout à l'heure, où Nézi dit que des vallées s'abaissaient et des montagnes s'élevaient. Et quand je mets ça en parallèle avec le fait que l'on retrouve sur l'Everest, des restes marins, ça veut dire que l'Everest, avant, il n'était pas à 8800 mètres. Et que c'est une conséquence directe des effets du déluge. Les montagnes s'élevaient. Donc il y a eu des phénomènes. La croûte terrestre a été modifiée profondément. Ce qui s'est passé après le déluge, et c'est assez... C'est assez marrant que, là encore, WWND, les films s'inspirent de ce qui est dit des fois dans la Bible. Après le déluge, le climat semblait être, en tout cas d'après ce que l'on en comprend, beaucoup plus chaud et uniforme sur l'ensemble de la Terre avant le déluge. Et après le déluge, les saisons se seraient mises en place. Mais avec la grande quantité d'eau et l'eau qui s'évaporait, vraisemblablement, ça a créé un climat très particulier, qui pouvait aller même dans la direction d'une grande glaciation. Pour ceux qui ont vu le film le jour d'après, c'est là qu'il y a une grande glaciation qui arrive, non, d'un seul coup. Ou le jour d'après, hein? C'est ce que j'ai dit, non? Je ne sais plus, c'est tard, hein? C'est... Le jour d'après... Ils se sont inspirés directement du récit de la Bible et de ce que certains météorologues chrétiens ont construit comme modèle sur le déluge pour expliquer un petit peu comme un effet dans un frigo où vous avez de l'expansion et un refroidissement conséquent, et bien pour monter leur film et expliquer ce phénomène, enfin monter leur phénomène qu'ils reprennent après dans le film. Une glaciation massive qui arrive. Alors, quelqu'un m'interpelle sur l'aspect biaisé de ma démonstration. Certainement. Et je suis prêt à l'affirmer haut et fort. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de dénoncer ce qu'on nous présente comme des faits? Et pourquoi je n'ai pas le droit de montrer justement les problèmes qui se posent avec cette théorie de l'évolution? Qu'on nous présente comme étant quelque chose de bien calé et un fait que tout le monde devrait accepter. Si scientifiquement, il n'y a pas de problème avec cette théorie de l'évolution, ok. Mais si des centaines et des centaines de scientifiques, même au niveau mondial, s'élèvent et disent « Mais attention, on pense que la théorie telle qu'elle est présentée par la théorie darwinienne ou néo-darwinienne telle qu'elle est présentée a des problèmes et on s'insurge contre ça », pourquoi je devrais présenter des arguments qui ne vont que en faveur de cette théorie? Non, ce que je voulais, c'est vous faire réfléchir. Et faire réfléchir par rapport à la Bible. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on est beaucoup trop dans une logique et dans le message de dire que la Bible est un conte de fées. Eh bien, si vous avez vraiment le courage de lire la Bible, de l'étudier et de faire exactement ce qui est dit dans Romains 1:20, d'observer la nature, vous allez vous rendre compte le témoignage puissant du Dieu créateur. Vous n'allez pas pouvoir y échapper. C'est ça qui doit nous interpeller. Parce que finalement, moi, et c'est le message que j'aimerais aussi vous faire passer, face à un monde qui m'offre une vie qui n'a ni sens, ni destin, ni raison d'être, et un Dieu créateur qui m'offre un plan d'amour avec une vie qui se prolonge dans la vie éternelle, le choix est tout fait, sans aucun problème. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres questions. Je ne sais pas où on en est, Alex. Omona l'a dit, ouais, j'en ai entendu parler, mais où le replacer, ça, faudrait que je regarde avant. Pourquoi les dinosaures n'existent plus ?
Alors, juste avant, ouais. La dernière.
Non, mais on peut encore. Ceux qui veulent, ils peuvent encore venir discuter voilà. Avec alors, moi. Hein. André, on peut s'arrêter là et puis.
Voilà. Après, j'imagine que sur la plateforme de ton site web aussi, au commencement.net, il y a des discussions qui sont possibles aussi.
Pour l'instant, le site, le problème, c'est qu'on n'a pas. Moi, j'ai pas la capacité de répondre à.
Ah, d'accord, ok.
Bon. Par manque de temps, mais bon.
Prochainement.
Prochainement, moi, je. Ouais.
Ouais, c'est... Ok. Bah, écoute, je te laisse répondre à cette dernière question et puis après, on va.
Donc, pourquoi il n'y a plus de dinosaures ou apparemment, il n'y aurait plus de dinosaures? Déjà, il faudrait être sûr, est-ce qu'il n'y a plus de dinosaures ? D'accord ? Et de tout temps, il y a des espèces animales, végétales qui disparaissent. Tous les jours, il y en a qui disparaissent. Ça, c'est clair. Donc, que T-Rex ait disparu, il y a... Oui, ça peut être bien. Que d'autres espèces disparaissent, oui. Aujourd'hui, je pense, si vous allez sur le site de l'UNESCO, vous allez découvrir quelle espèce... ont disparu ou sont annoncés comme ayant disparu cette semaine. Je vous ai montré ce matin la grenouille, Rheobatrachus silus. Eh bien, apparemment, elle a disparu, elle n'existe plus, cette grenouille australienne. Donc, les raisons exactes, il y a peut-être des modifications du climat au niveau des dinosaures, qui étaient certainement différentes et moins favorables. Et puis, il y a aussi, au moins pour les gros dinosaures, les plus grands dinosaures, un jeune dinosaure était toujours un petit dinosaure, hein, mais pour les plus grands dinosaures, au bout d'un moment, ils étaient quand même en compétition directe avec l'homme. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que dans des récits autour du monde, on retrouve cette compétition. Quand, Alexandre le Grand va en Inde, qu'est-ce qui est décrit ? Il est décrit qu'il va dans des grottes et qu'il va lutter contre des gros animaux. Des gros animaux qui semblent être des dragons. Alors souvent, on passe ça pour des mythes. Est-ce que c'est qu'un mythe ? À voir. Moi, je demande à voir. En tout cas, j'aimerais surtout, vous savez, si on nous dit ou on peut nous accuser d'être biaisés ou de défendre la création, si... Les scientifiques qui étudient, par exemple, les dinosaures sont vraiment sérieux et objectifs, eh bien, je leur lance un défi. Ces restes de dinosaures non fossilisés, ayez le courage de les faire dater au carbone 14. Pourquoi un tel refus de les dater au carbone 14 ? S'ils ont vraiment 65 millions d'années, on ne devrait plus trouver de carbone 14 mesurable dedans. Ok, faisons l'expérience. Eh bien, chape de plomb. On ne veut pas. Pourquoi ? Moi, je sais pourquoi. Je m'arrête là. Merci.
Alors, on peut encore applaudir André pour cet effort. Merci.